Très simplement, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de Perrin il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, personnage tout à fait extraordinaire, Benoît Hiver. Et au cours de nos conversations, l'idée est venue d'un livre sur les origines de l'islam. Mais les origines, non pas telles qu'elles sont vues par la tradition musulmane, parce que la tradition musulmane, comme l'Église, comme le judaïsme, a son histoire, n'est-ce pas, officielle, son dogme, son canon, vous le savez aussi bien que moi. Mais les origines vues à travers les yeux d'un savant occidental qui serait archéologue, épigraphe, linguiste, bon. L'idée de ce livre est née de cette rencontre avec Benoît Hiver et je me suis mis au travail, c'est-à-dire que j'ai pu d'abord commencer à faire un travail qui puisse me permettre de répondre à des questions que je me posais réellement. Hein. Et deuxièmement, au cours de ces recherches, j'ai découvert qu'il existait un courant extrêmement violent, islamophobe, dans une extrême droite essentiellement catholique. Et j'étais tellement choqué par des choses que j'ai lues ou par des soit des attaques frontales, si vous voulez, hein, des attaques frontales de religion à religion
ou insidieuses
ou alors frontales, soit sur le plan théologique, les musulmans n'ont pas le même Dieu que nous, bon, ou alors la morale, vous savez, vieux couplet, le prophète libertin, polygame, lubrique, pédophile, même on dit enfin aujourd'hui, bref, voilà. Et puis alors il y a aussi une islamophobie qu'on dit aujourd'hui savante d'ailleurs, vous savez naturellement, vous connaissez cette querelle qui a été déclenchée par le livre de Guggenheim qui s'appelle « Aristote au Mont-Saint-Michel », auquel a, par bonheur, répondu Alain de Libera et tout un groupe de gens beaucoup plus savants que Guggenheim. Et dans ce courant-là, donc existe une mouvance chrétienne, mais chrétienne d'extrême droite. Je ne parle pas du tout de l'Église en tant que masse des fidèles et des clercs qui, pour la plupart, sont extraordinairement ouverts, généreux et qui partagent enfin avec les musulmans tous les jours. Enfin,
donc là, le second livre qui est paru en premier de la dignité de l'islam, parce que c'est lui qui traite de l'islamophobie, est né suite à votre enquête pour écrire.
Au cours de ce travail de réduction de la...
Et donc vous l'avez détaché, vous en avez fait un premier livre.
Voilà, je l'ai détaché.
C'est de la dignité de l'islam chez Bayard.
Chez Bayard, c'est ça, qui est sous-titré « Examen et réfutation de quelques thèses de la nouvelle islamophobie chrétienne ». Voilà. Et alors, ça c'est un pamphlet naturellement, mais très technique, parce que je prends point par point et je réponds point par point d'une façon tout à fait rationnelle à ces attaques-là. Dans un deuxième temps, donc, une fois ce livre publié, je me suis remis à la rédaction de l'invention de l'islam. Et là, j'ai pu alors, je crois, mener un travail, si vous voulez, parfaitement objectif, sans souci de quelconque... adversaire potentiel.
Mais on en vient à ce livre, pardonnez-moi.
Oui, je vous en prie.
On va détacher. On fait un premier temps, en tous les cas, sur le livre que vous avez intitulé De la dignité de l'islam, avec comme sous-titre Réfutation de quelques thèses de la nouvelle islamophobie chrétienne. Livre, je le rappelle, et qui est paru aux éditions Bayard. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre vous avez senti, vous vous êtes senti blessé du fait que vous veniez de la chrétienté, que vous vous êtes retrouvé en islam, hôte de l'islam
Ce qui m'a choqué le plus... Oui, alors d'abord, naturellement, je suis de culture catholique, fondamentalement, structurellement catholique, chrétienne, bon, quelles que soient mes convictions d'aujourd'hui, peu importe, hein. Et j'ai naturellement une connaissance et un amour, je dis, du monde musulman, bon. Alors j'ai été choqué premièrement par ces attaques quand même très très violentes et deuxièmement que j'ai trouvé fort peu chrétienne, voyez, même je dirais même antinomique avec ce qu'est censé enseigner l'Église. Voilà, alors ça et mon sens de justice a été chatouillé. Voilà, j'ai sorti mon glaive.
Oui, parce que vous avez été pratiquement tout aussi violent pour réfuter les violences.
Oui, exactement, oui.
Et vous avez commencé par ce que vous avez intitulé dans ce livre « La provocation de Ratisbonne ».
Il est clair que même si je pense que l'Église en tant que corps constitué est étrangère à cette islamophobie, il est clair que le retour du religieux, qui est colossal dans le monde musulman, les mosquées pleines dans le monde entier, chez nous aussi, bien sûr. Tout ça effraie évidemment une église qui, elle, voit ses temples se vider. Hein. Donc je pense que dans cette espèce de reprise en main que l'Église a opérée avec l'élection de Benoît XVI, il y a quelque chose qui est une forme d'expression d'une distance et d'une face au dialogue. Au dialogue avec les musulmans. Voilà. Ça, je pense que c'est assez clair. Et le discours, le fameux discours de Ratisbonne était très clair de ce point de vue-là. Hein. Citer le propos qu'a cité Benoît XVI dans cette allocution universitaire était extrêmement provocateur, me semble-t-il.
Bon, et vous ne pensez pas aussi que ce qui peut être... On est toujours en Europe face à ce débat à propos de l'islam, lorsque, comme actuellement, une forte tendance en islam opte pour une radicalisation à partir du matériau traditionnel islamique, donc il y a une logique possible en ce sens-là, c'est peut-être cet islam-là aussi qui amène... ceux qui n'aiment pas l'islam à trouver matière que les musulmans la leur donnent, si j'ose dire.
Certainement, ça va de soi. Il y a une provocation, un exhibitionnisme religieux du côté musulman. Ça va de soi. Et d'ailleurs, on devrait analyser ce radicalisme mondial comme un parallèle à la société de consommation mondialisée. Le port du voile mondialisé, des tenues qui deviennent uniformes d'Arabie Saoudite.
La forme de nuisance que prend l'appel de la prière, alors qu'au départ, il était censé être plutôt d'effet esthétique.
Oui. Écoutez, on pourrait passer en revue, naturellement, toutes les raisons que les intégristes ou autres traditionalistes trouvent pour provoquer, souvent, il faut bien le dire, les sociétés dans lesquelles ils se trouvent. Bon, maintenant, moi, je ne me place pas sur ce terrain politique-là. Hein, et je pense simplement que, en tant qu'occidental, si nous devons affronter un adversaire, nous avons un devoir, c'est d'utiliser les armes des Lumières, et donc du respect de l'autre, voilà, dans le dialogue. Qu'on puisse être chrétien, évidemment, qu'on puisse soutenir, et je pense qu'on a de bonnes raisons, que l'Europe a des racines chrétiennes, et essentiellement chrétiennes. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Hein. Donc, je pense qu'on a tout à fait le droit de dire que l'islam est une religion acceptée chez nous, mais qu'elle ne fait pas vraiment partie de notre héritage. Très bien. Mais tout ça, on doit le dire dans le respect de l'autre, dans le respect de ses convictions et de son propre héritage.
Parce que vous-même, dans votre vie et pratique, de l'espace islamique, vous avez rencontré un autre islam dans lequel vous ne reconnaissez pas la manière avec laquelle l'islam est réduit par ses multiples discours, surtout lorsque ces discours se veulent savants.
Écoutez, l'islam a beaucoup changé. En 10-15 ans, le visage de l'islam a changé. Hein.
Chez Disons nous, en 30 ans.
Hein. Oui, 30 ans si vous
les
voulez.
Les 30 dernières années.
Chez nous et dans les pays musulmans, très curieusement quand même. Alors, c'est une affaire si compliquée qu'il est difficile d'en parler en quelques minutes, parce que comment, par exemple, désintriquer l'hypermodernisme des pays du Golfe avec le radicalisme religieux, qui finalement marche très bien ensemble.
Et la manière avec laquelle ils...
Ils l'imposent au monde entier.
Voilà, leurs médias, par leur puissance médiatique, par les satellites. Ils ont métamorphosé le sens commun islamique.
Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, le wahhabisme, qui a toujours été considéré dans l'islam comme une secte, vous le savez comme moi, comme une secte vraiment hérétique, bon, est devenu la référence et comme le dogme prétendu de l'islam, alors qu'il n'a pratiquement rien à voir avec l'islam. Enfin, c'est très impressionnant et je pense que ce sont des questions vraiment cruciales, seulement qui mettent en jeu des origines si compliquées ou si puissantes. Imaginez simplement le rapport économique qui existe entre historique et économique qui existe entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Bon.
Deux ou trois éléments que vous avez repérés, constantes, dans ce discours construit particulièrement parfois par des auteurs très savants, éminents, et même parfois de comment dire, avec un instrument d'intelligence et d'intellectualité, pas tous, mais certains, véritablement
exactement,
pertinents.
Pas tous, mais oui. Il y a là de très grands noms que je respecte beaucoup, hein, comme des gens comme Alfred Louis de Prémard, par exemple, qui était un très très grand arabisant, ou le révérend Père Gillot, qui sont tous, ils sont presque tous ecclésiastiques, sont des gens qui sont d'une force peu commune dans le maniement de la langue arabe, dans la connaissance de l'arabe coranique,
de la philologie, l'archéologie, l'épigraphie.
Et enfin, surtout la philologie et le coranique, qui plus est, et dans l'histoire aussi de l'islam. C'est le cas de Prémard, notamment, qui est un grand historien. Mais si vous voulez, en même temps, quand on se plonge au cœur des travaux de ces gens-là, on se rend compte qu'il y a de subtiles distorsions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, leur savoir n'est plus tout à fait objectif et tente à faire prévaloir des solutions qui sont disqualifiantes pour l'islam.
Lesquelles, par exemple, justement ? Voilà. Les constantes, les structurelles que vous avez repérées.
Non, je vais donner un exemple qui me vient à l'esprit. C'est par exemple la question du dôme du rocher. Hein, les raisons qui ont poussé, semble-t-il, le calife Omeyyade.
Pourquoi, pardonnez-moi, vous finissez, c'est le dernier chapitre, de votre second livre, voilà. L'invention de l'islam.
Voilà. Alors, si vous voulez, parmi les raisons qu'on a pu donner à l'érection du dôme du rocher, ce chef-d'œuvre absolu de l'architecture islamique, il y a toutes sortes de raisons complexes que j'étudie dans mon livre, mais il est frappant que deux ou trois des islamologues français, en l'occurrence, auxquels j'ai tenté de répondre, préfèrent à toutes comme explication l'explication qui est due à deux historiens anciens, mais peu fiables, lesquels attribuent la construction de ce sanctuaire à la volonté du calife de détourner, de créer au fond une autre Mecque, une autre Kaaba. Voilà. Alors, on a deux témoignages là-dessus, et deux témoignages dont on sait pratiquement qu'ils sont faux, puisqu'ils sont liés, si vous voulez, au parti anti-Omeyyade.
Mais même cet argument, évidemment connu, si vraiment il est avéré, il ne pouvait être que ponctuel, puisque Abdelmalek, à l'époque, le calife situé à Damas, avait un problème de conflictualité.
Il y avait une guerre civile.
Une Mecque qui, à un moment, dont il a été dessaisi, puisqu'il s'est retrouvé sous une autre autorité.
Tout à fait. C'était Ibn Zubayr qui était.
Et donc, il n'y avait pas moyen d'aller, en effet.
Il n'y avait pas moyen. C'est plus compliqué que ça, justement, parce que les historiens ont découvert des documents passionnants, justement. On sait que lorsque la Mecque était assiégée par Al-Hajjaj, le vizir, homme à la fois lettré et cruel au service du calife Omeyyade, Al-Hajjaj obtenait des autorisations pour ses soldats d'aller faire le pèlerinage. C'est-à-dire qu'on arrêtait là les hostilités pour laisser passer les pèlerins.
Donc ça ne pouvait pas être le pèlerinage de substitution
Voilà. En revanche, comme le flux des pèlerins s'est ralenti à ce moment-là, il est fort possible qu'on ait célébré une sorte de Kaaba de substitution, mais sans jamais confondre l'un et l'autre, si vous voulez.
Donc finalement, entre les deux livres, De la dignité de l'islam, réfutation de quelques thèses de la nouvelle islamophobie, d'une part chrétienne, paru chez Bayard, et L'invention de l'islam, enquête historique sur les origines, paru chez Perrin, vous délestez du négatif dans le premier livre.
Oui, c'est un peu ça.
En toute sérénité, vous développez vos propres thèses selon la vision qui est la vôtre.
Ça n'est pas vraiment ma propre thèse. J'ai essayé de rendre compte des travaux les plus actuels, si vous voulez, couvrant tous les domaines qui touchent donc à l'archéologie, à l'épigraphie et à la linguistique.
Alors, chez ces savants qui n'aiment pas l'islam, quelle est la thèse insidieuse, pas en dessous, par rapport à Mahomet, à la figure même de Mahomet? Est-il légendaire? Est-il historique? Par rapport au Coran, est-il véritablement authentique? Est-il fabriqué? Sans entrer dans le mythe islamique de la parole divine, la question du statut, de l'historicité du texte, ce sur quoi ils essayent de fonder les matériaux, les hypothèses qui deviennent des thèses, et ce à quoi vous-même vous parvenez, parce que c'est lié, évidemment.
Alors, bon, si vous voulez, d'une certaine manière, on a toujours, depuis la naissance de l'islam, il y a eu une réaction anti-musulmane dans le monde chrétien. Et donc, finalement, ce sont toujours les mêmes arguments qui sont recyclés. Il n'y en a qu'un qui est apparu assez nouvellement dans les années 70-80, c'est quand Patricia Crone, une chercheuse d'ailleurs d'origine suédoise, mais américanisée, qui a été l'élève de John Wansbrough...
Lui-même a américain.
Lui-même, alors lui, totalement américain. Donc, quand Patricia Crohn a émis l'hypothèse et défendu l'hypothèse que la Mecque n'avait jamais existé et qu'elle était une invention des califes omeyyades également. Voilà. Alors, ça, c'est le seul argument nouveau dans la polémique anti-musulmane depuis que l'Occident a eu connaissance de l'islam. Alors, quels sont grosso modo ces...
Remarquez, pardonnez-moi, la première polémique chrétienne a commencé en Orient même.
Oui, avec Jean Damascène.
Même si maintenant on se demande si c'est lui ou qui a écrit le chapitre 101 du livre des hérésies. Parce que l'islam était perçu comme une hérésie chrétienne, en fait. Mais là, ça, c'est une autre affaire.
C'est pas tout à fait une autre affaire. Oui. Mais bon, oui, alors Saint Jean Damascène... Selon moi, et naturellement je me fie à des prédécesseurs et à des travaux très très sérieux là-dessus, selon moi effectivement cette partie du chapitre 100 ou 101 selon la numérotation du livre des hérésies de Saint Jean Damascène n'est pas du Damascène. Voilà. Si vous voulez, Saint Jean Damascène était un homme d'une très haute culture et qui avait une plume extrêmement acérée et très rationnelle. Bon. Et il expose notamment la christologie musulmane avec une extraordinaire clarté et une justesse, hein, une exactitude. Il comprend très très bien ce que c'est. Et quand il s'agit de parler du Coran, tout d'un coup, ça bafouille, on n'a plus du tout la même rationalité, on n'a plus la ligne du discours se perd, et on a un matériau qui en plus est très troublant, hein, qui ne correspond absolument pas à ce que nous savons du Coran et de sa formation. Donc, tout laisse à supposer.
Remarquez, j'aime beaucoup dans ce passage, je trouve ça très beau en termes de polémique, face aux musulmans qui estiment que pour la raison trinitaire, les chrétiens étaient associateurs, c'est-à-dire païens, c'est-à-dire polythéistes. Lui, il répond, certes, si nous sommes associateurs, vous êtes amputateurs, puisque votre christologie ne va pas jusqu'au bout.
Oui, enfin,
c'est beau.
C'est beau, c'est discutable, hein, entre nous soit dit, d'un point de vue à la fois théologique et rationnel, c'est très discutable. Mais bon, mais cela dit, c'est beau, et c'était c'est certainement un grand lettré, un grand personnage, hein, Damascène. Mais pour revenir donc à la question que vous me posiez, si l'on accepte cette polémique qui est orientale, qui est d'origine orientale, dès que le monde chrétien latin a connu l'islam, les mêmes attaques ont été formulées. Alors, Mahomet est un imposteur, il n'a pas existé. C'est un prophète lubrique, enfin c'est un faux prophète. Faux prophète, ça c'est tout à fait actuel. C'est un homme lubrique, c'est un violent, etc. Voilà. Alors ça, c'est sur le prophète. Le Coran, naturellement, est considéré comme un ramassis de soit de sottises, soit de choses incompréhensibles. Alors aujourd'hui, c'est recyclé de façon plus intelligente. On essaie de montrer que ça n'est pas d'origine arabe, que c'est d'origine syriaque. Bon, il y a toutes sortes d'hypothèses et d'instruments, hein, qui sont liés au démontage ou à la déconstruction, si vous voulez, du Coran et du mythe coranique. Bon. Et puis, alors, il y a des attaques qui ne concernent plus vraiment l'islam en tant que corps indépendant, mais qui l'attaquent dans sa relation aux autres monothéismes. L'islam se réclamant d'Abraham, hein, et passant pour être le troisième, à juste titre à mon sens, passant pour être la troisième branche du monothéisme. Alors cela est critiqué par un certain nombre de personnes qui sont des savants aussi d'ailleurs, souvent je pense aux époux Urvois, qui sont des gens, des arabisants très très compétents, très pointus, mais que leur foi, alors vraiment, rend parfois extraordinairement aveugle. Donc, leur position, c'est de dire l'islam, il n'adore pas le même Dieu que nous. Leur Abraham, leur Jésus, leur Marie, ça n'a rien à voir avec les nôtres. Bref, on en revient à une religion un peu totémique, quoi. Mon totem, c'est mon totem, je le garde, et puis il n'est pas à toi. Enfin, c'est très... et là, laissez parler le psychanalyste que je suis, c'est assez pulsionnel, je dirais. Voilà, on revient à des choses qui sont en deçà de la raison, hein, en deçà du discours rationnel et a fortiori théologique. Voilà pour répondre.
Donc vraiment une phobie, quoi, au sens
fort
du terme.
Oui, je crois que c'est une phobie au sens fort du terme, oui, absolument. Oui.
Et pour le Coran, il y a eu, vous avez cité Patricia Crohn, ce qui a été relancé, parce que c'est une thèse qui est apparue au XIXe siècle par son maître, sur le fait une datation tardive du Coran par rapport à là où il est situé dans la tradition islamique comme un texte recensé sous le troisième calife.
Voilà, sous le troisième calife. Officiellement, donc, le Coran, le texte du Coran est fixé sous Othman, troisième calife. Bon, c'est-à-dire assez tôt, hein. quelques années après la mort du prophète. Bon. Alors, maintenant, effectivement, la déconstruction islamologique occidentale est allée très loin, puisqu'effectivement, dans la personne de John Wansbrough...
Dans le meilleur des cas, début 9e siècle, c'est ça?
Wansbrough est du 20e, mais là, ça a commencé...
Non, le Coran va être situé... comme un texte constitué et fixé au 9e.
Eh bien, ça dépend justement. Wansbrough est allé jusqu'à dire 10e siècle, 10e. À cause des interventions supposées qu'à l'âge dont nous parlions tout à l'heure, qui était à la fois général et grand lettré, aurait fait subir aux variantes. Il aurait uniformisé, il aurait même, disent certains, ôté des versets. Enfin, tout ça reste dans le domaine de la supputation. Mais
le personnage de la fin 7e, début 8e.
Voilà, exactement, oui. C'est ça. Puisque c'est lui qui reprend la Mecque en 795 à Ibn Zubayr, l'anti-calife, dont nous parlions tout à l'heure.
695.
Voilà, alors donc sur le Coran, effectivement, l'islamologie depuis Golzière, hongrois du 19e jusqu'aujourd'hui, épouse des positions très très différentes pour ce qui est la question de la datation du Coran, puisque certains tiennent encore pour une véracité globale du récit islamique, et puis d'autres, alors, tendent à réduire le Coran soit à un corpus aggloméré de savoirs divers, la grande thèse prévalant aujourd'hui, d'un point de vue médiatique, plus que savant, c'est celle de Luxemburg, qui a Christophe Luxemburg, qui est un pseudonyme de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui est probablement un chrétien oriental.
Oui, mais mésopotamien même, avec certitude.
Peut-être. Qui lui a repris les arguments d'Alphonse Mingana, prêtre chaldéen qui s'était réfugié en Angleterre, selon lequel le Coran aurait une origine syriaque, serait en fait, le cœur du Coran serait la traduction en arabe d'un lectionnaire syriaque. Voilà. D'où les points de contact qu'on pourrait trouver entre la théologie chrétienne et la théologie musulmane. Voilà. Voilà pour vous résumer très brièvement les... Maintenant, à mon sens, une grande partie de ces querelles sont potentiellement détruites par la découverte des manuscrits de Sanaa. Vous savez qu'en 1965, et surtout en 1972, on a fait des découvertes considérables.
Ça a commencé en 1965, après
une inondation.
Une inondation.
Les pluies diluviennes qui sont abattues sur Sanaa, sur le Yémen. Bon, ça arrive souvent en Arabie, contrairement à ce qu'on imagine. Et
La queue de mousson, quoi.
Oui. Alors, une partie du clocher, du minaret de la grande mosquée de Sanaa s'est écroulée. Et à la faveur de cet écroulement, si je puis dire, on a découvert des caches secrètes dans lesquelles étaient entassés des milliers de manuscrits, essentiellement coraniques, mais pas seulement, et qui se sont révélés extrêmement précieux, extrêmement anciens.
Et on a un deuxième temps dans le plafond, je crois.
Voilà. Alors, il y a eu une deuxième découverte du même ordre quelques années plus tard, en 72. Alors, les Yéménites ont d'abord fait appel, ont lancé une sorte d'appel international.
On a découvert, pardonnez-moi, et vous le rappelez, dans l'invention de l'islam, un certain nombre de ces documents dans des ventes publiques en Occident.
Oui, semble-t-il.
La première découverte.
Pour la première découverte en 65, il semble que le conservateur ait revendu subrepticement des exemplaires qui se sont retrouvés dans des grandes ventes internationales, notamment chez Sotheby et Christie's, semble-t-il, sous réserve. Dans un deuxième temps, alors, les autorités yéménites se rendent compte qu'elles ont là un trésor considérable et font appel à une aide internationale. Les Danois leur proposent leur aide, mais sous réserve que les manuscrits soient envoyés au Danemark. Alors là, les Yéménites refusent. Refusent pourquoi ? On ne sait pas très bien. Soit parce qu'ils ont trop de respect pour leur patrimoine religieux et culturel, soit parce qu'ils se méfient, peut-être. Bon. Finalement, c'est l'Allemagne qui envoie une mission. Et l'Allemagne envoie donc un spécialiste du paléographe et lexicographe qui s'appelle Gertrudiger Puin. Et malheureusement, ce personnage très vite met le pied dans le plat et dit « Mais vous savez, c'est une bombe parce qu'en fait, il y a beaucoup de palimpsestes. Et sous le texte coranique que nous voyons, il y a d'autres textes qui n'est pas le même. » Voilà. Alors... Tout ça est tout à fait passionnant, mais ce qui est très très troublant, c'est que Puin et ses acolytes ont travaillé à partir des années 80. Et qu'aujourd'hui, en 2012, nous n'avons pratiquement aucun article universitaire, aucun article scientifique qui sont prêts, enfin très peu, disons. Et puis il y a des choses qui restent encore mystérieuses. Puin et son assistant...
Une découverte en rétention.
En rétention. Alors c'est très complexe parce que, si vous voulez, on comprend, intellectuellement j'entends, on comprend que les intégristes soient troublés, perturbés et ne veuillent pas qu'une version différente du Coran, si ancienne, soit connue. Bon. Mais en même temps, avoir une version, fût-elle un peu différente du Coran, qui soit aussi ancienne, ça ruine naturellement toutes les théories de
la mise en cause
de la naissance tardive,
l'inauthenticité
et de la naissance tardive, vous comprenez, parce qu'en plus la mosquée du Yémen, la mosquée de Sanaa, a été une des toutes premières qui a été construite, semble-t-il, sur l'ordre du prophète d'ailleurs. Donc c'est vraiment un monument extrêmement ancien, un des plus anciens de l'islam,
ces textes date de 30 à 40 ans après la mort du prophète.
Il y a plusieurs couches, si je puis dire, de manuscrits de Panamsès, mais les plus anciens semblent remonter, selon les datations les plus favorables, hein, à 20 ou 30 ans après la mort du prophète, ce qui fait vraiment des textes extrêmement précoces. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après ce qu'on sait, puisqu'il y a quand même des informations qui circulent, hein, qu'on peut attraper, il faut faire de vraies recherches, mais on arrive à avoir des informations. Et d'après ces informations, ce qui est intéressant, c'est que ces Corans de Sanaa correspondent aux descriptions que nous avons des Corans qui ont été éliminés par la version de Othman. C'est-à-dire que lorsque, sous le troisième calife, on a décidé de donner une version unique du Coran, qui deviendrait la version canonique, la Vulgate, on a éliminé des recueils concurrents, des recueils personnels, hein, puisque le prophète n'avait jamais voulu que le Coran fût transcrit et consigné. Certains s'étaient fait des aides-mémoires et avaient noté grande partie du Coran, du texte coranique. Et donc, notamment, Ubay, qui a été un des secrétaires du prophète, Ibn Masoud, un des premiers compagnons, et Ali, gendre, cousin et successeur du prophète. Bon. Donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que, premièrement, ce que nous savons de ces recueils, finalement, ne sont pas fondamentalement différents du texte connu aujourd'hui. Et deuxièmement, il semble que, dans les manuscrits de Sanaa, on trouve justement des versions qui ressemblent notamment à celle d'Ibn Masoud. Alors, c'est très, très intéressant.
C'est une des dernières versions qui a circulé vers l'an 1000.
L'an 1000, au 10e siècle.
On en perd totalement
exactement,
les traces.
Au 10e siècle, une décision de justice à Bagdad a décidé de brûler la dernière version de Masoud et de l'interdire.
Très curieusement, c'est en fait à partir de ce début du 11e siècle, fin 10e siècle, qu'on n'entend plus parler des autres Corans, quoi. Le Coran s'uniformise étonnamment et accepté par tous, chiites et sunnites.
Exact. Oui, c'est ça. C'est d'ailleurs une question que je n'ai pas abordée, mais qui est très complexe et très intéressante. Pourquoi les chiites, qui pourraient se réclamer d'un Coran d'Ali, qui les légitimerait aussi, ont finalement accepté la
remarquez,
version...
Remarquez, chez les chiites, il y a l'idée du Coran caché. Hein.
Bien sûr.
Il est toujours là. Hein.
Bien sûr, mais comme on dit qu'il y avait des
comme
versets...
Comme avec l'imam caché. Quoi.
Oui, mais dans les querelles originelles, on a trace de versets concernant Ali qui auraient été supprimés.
Oui, c'est la grande question là, des chiites. Tous les livres saints parlent de la famille des prophètes concernés, et là, pas un mot sur la famille.
Voilà. Donc on peut s'étonner que les chiites aient finalement adopté la version sunnite, en usage dans le monde sunnite.